Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Radio Libertaire, la société dans tous ses états, sur 89.4. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux sociologues, Joël Lellier. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et Christian Topalov. Bonjour Christian.
Bonjour.
Au sujet d'un livre qu'ils ont fait paraître aux éditions Agon, Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020, qui est consacré donc aux différentes réformes qui ont touché l'enseignement supérieur et la recherche au cours de ces 20 dernières années. Alors, la réforme, comme c'est un mot qui est en vogue depuis plus d'une trentaine d'années en France. Le premier dont je me souviens en avoir entendu parler, c'était Giscard d'Estaing au cours des élections de 1974. Et on a le sentiment que dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les transports et autres, nos gouvernements successifs sont saisis d'une espèce de frénésie de réforme à tout va. Et on finit par ne plus très bien comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on veut réformer, pourquoi on veut réformer et comment on réforme. Toutes ces questions, vous les êtes posées dans votre ouvrage et vous êtes allé au-delà avec votre regard de sociologue. J'aimerais d'abord, pour commencer, que vous vous présentiez comme sociologue et que vous nous disiez un petit peu quels sont les champs de vos travaux, de vos études. Et comment vous avez abordé justement cette question de la réforme de l'enseignement supérieur en tant que sociologue. Joël, si tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça.
Bonjour. Alors oui, le fait de travailler sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche pourrait supposer que nous parlons en tant que sociologue des sciences. Ce n'est pas le cas. Christian Topalov et moi-même sommes sociologues, mais pas du tout spécialisés sur cet objet-là, a priori. Et les raisons pour lesquelles nous nous sommes penchés sur cet objet, c'est d'abord en tant que chercheur et enseignant-chercheur pris dans cette tourmente de réforme qui a débuté à la fin des années 90, au début des années 2000. 2004 est sans doute un moment charnière dans cette histoire récente. Et c'est d'abord pour comprendre les transformations du monde savant, les transformations du monde professionnel dans lequel nous étions pris, que nous nous sommes penchés sur cette recherche-là. Alors ensuite, en tant que sociologue, on est bien placé pour étudier des objets comme des réformes, puisqu'il s'agit effectivement pour nous de comprendre des transformations sociales, des transformations professionnelles, ici les transformations du monde savant. Et donc nous étions armés de différentes méthodes, de différentes démarches, et ces démarches sociologiques pour comprendre ces réformes, et c'est ça que nous avons essayé de mettre en place. Alors, il faut aussi comprendre que si on s'est intéressé à cet objet-là, c'est parce que nous faisons partie des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui s'étaient opposés à cette réforme. Et donc, de comprendre aussi comment les réformateurs ont réussi à imposer cette réforme à l'ensemble de la communauté savante, quels ont été les ressorts, et puis aussi une façon de se donner des moyens pour nous résister, ou en tout cas d'une certaine manière avoir la connaissance suffisante pour faire face à ces transformations professionnelles qui sont aussi des transformations scientifiques et qui viennent gréver assez dangereusement la façon dont on peut faire de la science et dont on peut continuer à améliorer les connaissances.
J'aime bien citer, alors c'est peut-être pas à chaque fois, mais presque cette phrase de Fernand Pelloutier, du syndicaliste révolutionnaire du début du XXe siècle, qui, parlant des bourses du travail et d'éducation populaire, donnait aux prolétaires les sciences de leur malheur. Alors, c'est peut-être pas aussi fort que ça, mais effectivement, dans votre démarche, il y a le fait de donner à ceux qui sont concernés la possibilité de comprendre ce qui se passe et ce qui arrive, parce que sur une période de temps aussi longue, avec une succession, comme ça on va y revenir dans le détail, mais une succession de réformes et de textes qui viennent s'ajuster et s'empiler les uns sur les autres, c'est très difficile de s'y retrouver. Christian, tu as
oui,
aussi...
Oui, ce que vous venez de dire est important, parce que une des caractéristiques de ce processus de réforme qui se court maintenant depuis 20 ans, ou un petit peu moins, c'est d'avoir été, d'une certaine façon, extrêmement progressif. Je ne dis pas progressiste. Progressif au sens où chacune des modifications du système qui ont été mises en place nous a été présentée comme quelque chose qui était important de faire, pour sauver l'université française et la recherche, mais en même temps quelque chose qui n'allait pas changer fondamentalement notre vie quotidienne de chercheurs et d'enseignants. Donc ce caractère incrémental, disons, de la réforme, fait que la plupart d'entre nous n'en avons pas une vision d'ensemble. En outre, évidemment, chacun des personnels qui sont engagés dans cette affaire, et les étudiants tout autant, sont localisés dans un endroit. On voit les choses à partir de son laboratoire, à partir de l'université dans laquelle on se trouve, et la question de la vision d'ensemble est rarement posée. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse sur tout ça, mais le parti que nous avons pris dans cette recherche, c'est d'étudier les modifications apportées par les réformes dans leur globalité, c'est-à-dire la façon, et c'est ça notre point de vue particulier, je crois, la façon dont ces réformes ont changé le système de gouvernement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour ça, il fallait travailler au centre du système, c'est-à-dire dans les instances les nationales, en quelque sorte, du pouvoir.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas... je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne peut pas vous accuser d'être jugé parti et d'abandonner un petit peu ce que... Une des données de la sociologie, peut-être d'autres sciences humaines, c'est-à-dire la neutralité axiologique.
Bon, c'est une question qu'on nous pose, et c'est une question à la vérité que nous nous posons nous-mêmes depuis le début de ce travail. Joël est très, très clair là-dessus tout à l'heure. Nous sommes des chercheurs engagés. Nous sommes des gens, et nous ne sommes pas les seuls. On fait partie de ces milliers d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants aussi, qui se sont opposés à ces réformes, et qui aujourd'hui même n'ont pas renoncé à cette opposition. Donc, effectivement, nous sommes en plein dans cette posture-là. Et nous croyons néanmoins, et c'est là où il faut tenter de répondre à votre question, nous croyons néanmoins avoir fait un travail scientifique. Par parenthèse, le fait d'être que le peintre soit dans le tableau, c'est la situation des sciences sociales dans tous les cas, quels que soient les objets sur lesquels on travaille. Quand on travaille sur des objets qui appartiennent à notre propre société, nous sommes dans un rapport d'interaction avec ces objets. Quand l'historien travaille sur des périodes lointaines, ou l'anthropologue sur des sociétés elles-mêmes géographiquement lointaines, il les aborde à partir des questions qui sont les nôtres. Bref, le fait que le peintre soit dans le tableau, c'est une constante des sciences sociales. Ce n'est pas une particularité de notre travail à nous.
Je trouve ça très bien que d'emblée, on précise ces questions-là pour savoir exactement, comme on dit, d'où vous parlez.
C'est je crois, tout à fait important. Cette remarque que je viens de faire pose la question de la fameuse neutralité axiologique. Alors, en ce qui concerne notre recherche, cette question est d'autant plus vive que, effectivement, nous travaillons sur un monde extrêmement proche, puisque c'est exactement notre monde professionnel.
Ouais.
Bon. Donc, la moindre des choses qu'on peut exiger de nous, c'est d'abord de le dire, c'est-à-dire d'affirmer ce que nous faisons dans l'ouvrage, à partir de d'où nous parlons, comme on dit, comme vous venez de dire.
Ouais.
D'accord. Mais ce que nous croyons en même temps, c'est que nous avons fait un travail scientifique, parce que ce qui fait la particularité des sciences sociales par rapport aux opinions, par rapport aux essais qu'on peut écrire sur l'université, un travail de sciences sociales, il est basé sur des méthodes. Il est basé sur des procédures d'objectivation de la réalité, des procédures d'observation des choses, qui sont des procédures qui nous sont communes à l'ensemble du métier de sociologue, et plus largement, je crois, des sciences sociales. Et ces procédures-là, elles ont, je crois, un but. C'est de donner à la réalité une chance de nous dire « Non, non, vous vous trompez. Voilà. Et je crois que l'enquête et ses méthodes, c'est ça, c'est de rendre possible cette situation où les observations vont à l'encontre de nos hypothèses. Et je crois qu'on a tenté de faire ça, et je crois que là-dessus, avec des collègues qui ont des opinions politiques ou universitaires toutes différentes des nôtres, on peut dialoguer sur cette base.
D'accord. Donc là, vous mettez vraiment le cadre dans lequel vous allez travailler. Alors, la matière première de votre travail, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une très bonne question. Comme le disait Christian, on a essayé de s'appuyer sur des faits établis, ou en tout cas, de pouvoir poser des faits établis à partir desquels on pourrait discuter, y compris avec nos contradicteurs. Comment on a travaillé ? Eh bien, on a travaillé en sociologue, c'est-à-dire s'intéresser aux individus. Et en fait, étudier une réforme à partir des individus qui occupent des positions de pouvoir dans différentes institutions scientifiques. Donc, comme disait Christian, on s'est intéressé au gouvernement central, les institutions principales au niveau national qui ont un pouvoir sur la science et sur les scientifiques, sur l'organisation de la science. Et on s'est intéressé à regarder comment s'organisent ces pouvoirs éventuellement comment les individus cumulent différents types de pouvoirs, différents types de positions. Donc, le premier travail, ça a été de constituer une très grande base de données pour référencer les personnels de ces institutions-là de 2005 à aujourd'hui, en fonctionnant par sonde, et ce qui nous permettait de savoir qui était à quel endroit et comment éventuellement les personnes se déplacent.
Et ça, c'est une question tout à fait privée. Et que vous faites comment ? Vous téléphonez ou vous envoyez un mail concrètement, parce que c'est énorme. Hein, quand on lit le livre, on s'aperçoit qu'il y a des annexes, vous montrez des tableaux, etc. C'est gigantesque.
On a voulu, comme le disait Christian, on a essayé d'être particulièrement rigoureux sur notre méthode, et donc on a essayé de travailler sur des données publiques. Donc ce livre est un livre qui est un livre nominatif, c'est-à-dire on travaille sur des individus, on nomme les individus, mais on parle d'individus qui, dont leur position et puis les propriétés, ce qu'on a pu trouver sur eux, sont des données publiques. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement ? Aujourd'hui sur Internet, on peut trouver l'organigramme des agences, l'Agence nationale de la recherche, de l'agence d'évaluation, aujourd'hui le Haut Conseil à l'évaluation, la recherche et l'enseignement supérieur. Et puis, on trouve aussi les organigrammes du CNRS, etc. Alors après, on a profité d'un outil qui existe toujours, qui est un outil formidable, qui est la Wayback Machine, c'est-à-dire les archives d'Internet, qui permet de remonter dans le temps et de retrouver aussi des informations. Alors, ce qu'on a pu faire sur toutes ces années-là, il y a des données qui ont disparu depuis, mais en tout cas, on a pu rassembler de cette façon-là, tout simplement, des listes qui nous permettaient de savoir où étaient les personnes. Et puis, pour les institutions où les données n'étaient pas publiques, on a pu aussi, effectivement, contacter des gens pour retrouver des listes des individus et où est-ce qu'ils se situaient.
Donc finalement, vous avez accumulé une masse considérable de documentation, vous avez fait une sorte de travail presque d'archiviste, d'une certaine manière, ou d'archiviste du présent.
Oui, on a fait ça, et pour situer un petit peu l'ampleur du travail, c'est pas pour nous.
Il faut faire.
C'est comme ça qu'on a travaillé. On a travaillé sur 50 institutions de portée nationale, plus les super universités, les IDEX, donc 50 en tout, et pour chaque coupe chronologique auquel Joël faisait allusion à l'instant, on a pêché 5000 noms. Donc ça fait du monde, et sur ce monde, évidemment, on a fait des enquêtes plus précises sur certains sous-ensembles, en recueillant, toujours sur des données publiques et généralement en ligne, les CV ou les biographies des gens.
C'est-à-dire que, en fait, cette recherche est une recherche un peu particulière quand même pour des sociologues, dans le sens où les sociologues ont plutôt l'habitude de faire des enquêtes de terrain, avec des cas, des monographies, par exemple, ou faire des entretiens, ou aller faire des observations. Nous, on a travaillé essentiellement sur ce type de données, donc des données un peu froides, on pourrait dire, d'une certaine manière un peu éloignées des individus. Mais c'était aussi une façon pour nous d'essayer de poser un cadre factuel solide. Voilà, un des éléments. Et donc après, on a travaillé beaucoup sur les curriculum vitae, c'est-à-dire sur les trajectoires de ces individus. Et il se trouve que l'univers savant est un univers dans lequel les personnes ou les institutions mettent très facilement des CV en ligne. Ce n'est pas le cas de tous les milieux professionnels, mais c'est particulièrement le cas du milieu savant. Et ça nous a permis de retracer et de constituer, d'enrichir alors, une autre type de base de données qui est basée là, sur les trajectoires des individus, mais aussi leurs propriétés savantes, scientifiques, pour comprendre qui se retrouve à occuper des positions de pouvoir et puis à comprendre l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire que lorsque une institution a une grande centralité dans le système du pouvoir, on va trouver des individus qui vont cumuler des positions dans différentes institutions et qui permettent de connecter de cette façon-là différentes institutions. Donc cette façon de faire, ça nous a permis par exemple de voir à quel moment des institutions comme le Conseil national des universités ou le Comité national du CNRS se retrouvent petit à petit marginalisées dans les institutions de pouvoir. Pourquoi ? Bah parce que les membres du Comité national des universités, du Conseil national des universités ou du Comité national du CNRS deviennent de moins en moins connectés aux autres institutions du pouvoir. Et donc, derrière les mouvements de personnes, ce qu'on observe, c'est des transformations du pouvoir.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que les institutions, quand elles se mettent en place, là, vous décrivez comment naissent des organismes comme l'ANR, l'ARS, on va revenir sur ces noms, sur ces organismes un peu plus tard dans notre discussion, mais elles sont elles-mêmes peut-être aveugles à tout ce que vous décrivez. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas... est-ce qu'elles choisissent ? Alors, bien sûr, il y a des choix par des connexions personnelles, par des centres d'intérêt communs, mais elles se construisent sans vraiment savoir comment elles se construisent. Ou alors, expliquez-nous ça, parce que là, vous touchez quelque chose qui, moi, m'a particulièrement frappé à la lecture de votre livre.
C'est une excellente question, et c'est en fait une des questions qui touche à la centralité des sciences sociales. C'est-à-dire que, effectivement, en sociologie, on a tendance à... On peut parler de stratégie, de choses comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement conscient. Ouais. C'est-à-dire que les institutions... On réussit, avec les méthodes scientifiques des sciences sociales, à faire émerger des logiques qui ne sont pas nécessairement celles que les acteurs avaient lorsqu'ils ont pris leurs décisions. Ouais. Mais on voit bien qu'émerge un système ou des décisions systématiques et qui donnent une réalité sociale. Donc vous avez raison de mettre l'accent sur le fait que la question de la conscience par les individus de ce qu'ils sont en train de faire n'est sans doute pas centrale dans notre affaire.
C'est pas Bourdieu qui en parlait de ça ? J'ai vague souvenir, comme si je connais pas grand-chose, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça dans l'ordre de des institutions
La question des institutions est une question très compliquée.
Oui, on ne va pas rentrer peut-être plus en détail là-dessus.
En sciences sociales, mais en tout cas, si on prend notre affaire, lorsqu'une institution... un des éléments, on va développer, mais un des éléments qui est très important dans cette réforme de l'univers savant, c'est que c'est une réforme qui est passée par une série de créations institutionnelles complexes, parfois avec des retours en arrière, avec des avancées, avec des transformations. Et donc, c'est passé aussi, en créant ces institutions, par la mobilisation d'un grand nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, il a fallu habiter ces institutions. Et donc, lorsque des institutions naissent, elles vont recruter un certain type de personnel. Et un très grand changement de la réforme, c'est qu'on est passé d'un système auparavant où la plupart des institutions, c'est le cas d'ailleurs toujours du Conseil national des universités ou du Comité national du CNRS, où on était élu. Et une des spécificités des nouvelles institutions, c'est que ces institutions, on est nommé. Donc il y a bien un choix qui est fait. Ouais. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que derrière le type de choix qui sont faits, se dessine la coloration de la réforme que l'on veut mettre en place.
Est-ce que vous avez eu vent de travaux analogues aux vôtres réalisés dans d'autres domaines que celui de l'enseignement et de la recherche, soit en France ou ailleurs, ou est-ce que vous êtes un peu novateur dans ce genre d'enquête sociologique ?
Alors, On n'est pas novateur dans le sens où on mobilise une méthode, en l'occurrence ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire l'analyse des trajectoires des individus pour saisir des transformations sociales. Dans la façon dont on a analysé cette réforme-ci, je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là de travail, on ait voulu le faire de cette façon-là, mais parce qu'il y a différentes façons aussi de décrire une réforme de façon assez variée.
Peut-être, j'aimerais revenir un instant à une question que vous aviez posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'au fond, les personnes engagées dans ces réformes avaient conscience de ce qu'elles faisaient, quoi. Alors, notre méthode permet, je crois, d'avoir une réponse diversifiée à cette question. La première chose, enfin, il y a eu un moment d'accélération qu'on appelle le Big Bang des réformes, un moment d'accélération très fort où, d'une part, les deux agences, celle d'évaluation et celle de distribution des crédits, ont été créées. Et puis, simultanément, il y a eu des réformes du CNRS qui ont commencé à être prises. Nous sommes là dans les années 2004-2007 environ. Et ce qu'on a constaté en travaillant comme nous l'avons fait, c'est que les personnels du ministère, les personnels de l'état-major du ministère ont peuplé l'ensemble des nouvelles institutions créées. Alors là, on peut dire, sans, je crois, prendre trop de risques, qu'il s'agissait de mettre en œuvre une doctrine qui était en cours d'élaboration, d'ailleurs, qui venait véritablement du ministère. Le ministère avait les manettes en main et entendait les garder pendant longtemps. Et il a d'ailleurs implanté au sein du CNRS, dans des endroits tout à fait stratégiques, les personnels dont il avait besoin pour appliquer la politique qui était la sienne. Donc là, on ne peut pas dire que les acteurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. En revanche, ensuite, quand le processus de recrutement de personnel, d'exécution, on pourrait dire, s'est mis en place, les choses se sont passées un peu différemment. Je prends un exemple. C'est celle de l'agence d'évaluation. L'agence d'évaluation s'est dotée d'un personnel de petits cadres, je dirais, qui contrôlait la mise en place des comités d'experts, discipline par discipline, etc. Et ces petits cadres-là, qu'on appelait les délégués scientifiques à l'époque, se trouvent avoir des profils extrêmement cohérents. Est tout différent de ce qui étaient les profils, par exemple, des cadres du CNU ou du comité de la recherche scientifique. Et ces profils, bon, que je peux décrire en un mot comme étant des petits administrateurs d'universités de province, pour simplifier, et sans que ni province ni petit soit péjoratif dans ma bouche, eh bien, ce profil-là, évidemment, entraînait une certaine façon de travailler qui était toute différente des profils antérieurs dans les autres institutions. Voyez-vous, donc les modes de recrutement ont ensuite des conséquences dont les acteurs ne sont pas nécessairement conscients sur les affaires, et a fortiori quand on descend au niveau des comités d'experts, Joël, moi, d'autres auraient pu parfaitement en faire partie, sauf qu'on aurait, je pense, refusé, mais voyez-vous, c'était des universitaires de base qui étaient mobilisés, eux n'avaient aucune idée, pour la plupart d'entre eux, de l'ensemble de la machine qui les mettait en mouvement. Oui. Donc voilà, il y a une réponse hiérarchisée, en quelque sorte, à votre question.
Juste, d'un point de vue purement prosaïque, là encore, c'est combien de temps ça a duré, votre travail ? Est-ce que vous avez accompagné, en quelque sorte, toute cette affaire ?
Alors, on a commencé, je pense, en 2013, à initier ce travail. Donc, ça doit faire
8 ans, 9 bientôt. Ouais.
Et alors, c'était un travail de longue haleine. D'abord, c'était pas notre... ce que je voulais vous dire aussi au début, c'était pas notre champ de recherche principal. Il a fallu débroussailler pas mal de choses, réussir à comprendre qu'est-ce qu'on cherchait, construire nos outils... à la fois en termes d'analyse de réseau pour savoir comment on va étudier les transformations du pouvoir, mais aussi en termes de traitement prosopographique à large échelle, comment on va faire pour réussir à rassembler tout ça. Donc c'était un projet long qui, à l'origine, avait pour objectif de croiser des collègues de disciplines différentes. Il y avait des physiciens, des bioinformaticiens, des biologistes qui s'étaient associés avec quelques sociologues, dont Christian et moi-même, pour travailler sur ces transformations-là. Un petit groupe qui s'était constitué à l'initiative de rencontres dans un séminaire central sur ces questions-là, qui est le séminaire politique des sciences de l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc notre objectif premier était à la fois de travailler sur le système global et puis de travailler sur les sciences du vivant, et enfin biologie santé, et puis sciences humaines et sociales. La recherche continuant petit à petit, certains de nos camarades sont passés à d'autres choses, et on a continué cette recherche de cette façon-là. Donc c'était un processus assez long. Ça a été compliqué parce que la réforme a continué à avancer, des nouvelles institutions se sont créées, on avait commencé un grand travail sur ce qu'on appelait à l'époque les presses, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, et puis avant même qu'on ait eu le temps de finir, ces pôles de recherche avaient disparu, avaient été remplacés par des communautés universitaires et des communautés d'établissement. C'était très compliqué parce que cette réforme est une réforme qui a une très grande imagination institutionnelle et qu'il a fallu suivre. Et donc, on a accompagné effectivement petit à petit et on a développé notre base de données et nos données au fil de la recherche.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Mélocotone par Colette Mani. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la société dans tous ses états, et en compagnie de Joël Lallier et Christian Topalov pour Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020, qui vient de paraître dans la collection L'Ordre des choses, aux éditions Agon. Dans une première partie, on a abordé donc les méthodes que vous avez mises en branle pendant toutes ces années d'enquête et de travail pour mener à bien ce projet et cette étude sur ces réformes. Et on a un petit peu dressé un premier tableau de l'environnement dans lequel vous avez travaillé. Maintenant, j'aimerais qu'on, dans cette deuxième partie, qu'on en vienne un petit peu au contenu de cette réforme. Donc, j'avais l'impression, ce que disait Joël juste avant la coupure, que c'est toujours un work in progress. On a l'impression que ça se termine jamais, quoi. C'est quelque chose qui a commencé il y a maintenant près d'une vingtaine d'années et on n'en voit pas le bout, on a l'impression qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se faire. Mais c'est quoi cette réforme? Qu'est-ce qu'on a décidé en haut lieu de réformer et pourquoi?
Alors, la question que vous posez implique une réponse engagée. C'est-à-dire que ce qu'on va vous dire maintenant peut-être est une interprétation Comme tout récit historique, c'est une interprétation. Mmh. Voilà, c'est basé, pensons-nous, sur des faits assez robustes, et entre autres sur notre travail d'analyse du système de pouvoir, mais néanmoins, la mise en forme de tout ça est une mise en forme engagée, nécessairement. Parce que la réforme, à vrai dire, quoi de plus sympathique qu'une réforme, surtout placée depuis longtemps sous le mot d'ordre de l'autonomie. Oui. Soyez autonomes, que les universités soient autonomes, que les chercheurs s'autonomisent et fassent des projets, etc. etc. Et à rebours de ce nuage de mots, ce que nous croyons avoir observé, c'est à peu près exactement l'inverse. C'est-à-dire, d'abord, premier aspect de la réforme, c'est la concentration du pouvoir là où il était auparavant plus diffus. Concentration du pouvoir dans les universités aux mains des présidents. Concentration du pouvoir en matière de financement de la recherche aux mains d'une seule agence qui a le monopole des crédits. Concentration du pouvoir pour attribuer des crédits aux universités entre les mains d'un jury dit international, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps, un jury qui va piloter la restructuration en profondeur de l'université française pour l'avenir, etc. Donc, concentration du pouvoir entre les mains au sein d'institutions centralisées et entre les mains d'un petit nombre d'hommes et de femmes qui ensuite, dans le fonctionnement quotidien des institutions en question, font descendre leur autorité parce que aussi bien l'agence d'évaluation que l'agence de financement est basée fondamentalement sur la nomination du haut jusqu'en bas, les gens sont nommés par l'échelon supérieur. Donc on est dans un système qui est extrêmement différent de ce qu'on avait connu auparavant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, deuxième aspect de la réforme absolument crucial, c'est la mise en compétition, la mise en concurrence généralisée de tous contre tous. Soit pour obtenir des financements de recherche, c'est la forme projet qui est désormais imposée comme la seule forme possible pour obtenir des ressources, puisque les ressources récurrentes distribuées directement aux universités et aux laboratoires fondent comme la peau de chagrin, et puis le nombre de postes fixes qui donnent de l'autonomie aux chercheurs diminue lui aussi. Donc la mise en compétition générale, organisé pour une part par l'évaluation permanente. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Bien entendu, depuis longtemps, les chercheurs sont en compétition. C'est une partie évidente de leurs interactions. Les coopérations multiples en étant une autre, bien sûr. Mais là, c'est une exacerbation radicale, disons, de cette mise en compétition. Et enfin, le troisième point, et ça c'est extrêmement nouveau, c'est la différenciation systématique de l'attribution des ressources. Et l'exemple massif de cet aspect de la réforme, c'est la création de toutes pièces, de regroupements universitaires, dits d'excellence, visibles à l'international, comme disent les technocrates qui nous gouvernent, et qui désormais obtiennent de façon récurrente, par dotation, des ressources qu'aucune université ordinaire ne peut rêver avoir. Donc on a une fracture consciente et organisée de l'universitas qui était une, d'une certaine façon jadis, en deux blocs. Un bloc qui concentre les ressources et un bloc qui, on s'en aperçoit absolument constamment, tombe progressivement dans la misère. On n'est pas très sûr qu'en février, il y aura du chauffage dans les amphis, vous comprenez.
Oui. Voilà. On va revenir sur chacun de ces points. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, ce qu'on entend dans la presse ou dans les médias, c'est deux choses. C'est d'une part le terme qui revient sans arrêt, c'est l'innovation. On a besoin d'innover. Alors, on pourrait dire aussi pas mal de choses sur le choix des mots, etc. On parle plus de progrès, on parle d'innovation. On a besoin d'innover. Et puis deuxième chose, Ce qu'on vient d'entendre, hein, ce que Christian vient de nous expliquer, ça va un peu dans ce sens-là, c'est le classement de Shanghai, ce fameux classement des universités de Shanghai. Alors j'aimerais qu'on développe un petit peu ces deux points qui peut-être, je me trompe peut-être, mais ont été quand même quelques arguments donnés en faveur du besoin de ces réformes.
Alors, votre question pose en fait celle de la façon dont s'est imposée à un moment donné la question et la façon dont s'est posée la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est-à-dire la façon dont, petit à petit, les mots de la recherche, les mots de l'enseignement supérieur, les mots MAUX, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est constitué. Le classement de Shanghai a joué un rôle très important. La question de l'innovation a aussi été centrale.
On peut juste rappeler ce que c'est que le classement de Shanghai, peut-être que nos auditeurs...
Le classement de Shanghai est un classement des universités au niveau mondial, des principales universités mondiales, réalisé par un petit groupe qui était à l'université Xiaotong de Shanghai et qui va avoir un succès fou en France, qu'on explique étrangement, mais qui a servi en fait d'argumentation pour justifier toute une série de réformes et qui est un peu le symbole de... la construction de finalement ce qu'il y avait derrière l'idée d'économie de la connaissance, qui était en fait de construire un marché mondial de l'enseignement supérieur. Et donc, le classement de Shanghai, c'est un classement des universités, mais en classant les universités, c'était une façon de donner corps à cette idée d'un marché mondial de l'enseignement supérieur. Mais en fait, l'idée dans le discours réformateur. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la question que vous posez, c'est la question du discours réformateur. Et alors, c'est une question qui est vraiment importante parce que il y a débat. Il y a débat pour savoir est-ce que il y a une doctrine de la réforme qui a été imposée de l'extérieur depuis. L'OCDE, ou les institutions européennes, ou la Commission européenne, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui relèverait plutôt de mots, en tout cas de difficultés qui seraient proprement françaises. De notre point de vue, c'est aller peut-être un petit peu vite de penser que la réforme a juste été imposée de l'extérieur par l'Union européenne ou la Commission européenne, ou qu'il y aurait une doctrine qui a été déroulée, si vous voulez, voilà, comme s'il y avait, voilà, il y avait la réforme était déjà constituée. Et en fait, elle n'a fait que s'appliquer à l'université. Parce que lorsqu'on regarde le discours réformateur, c'est-à-dire comment... il y a eu énormément de rapports. J'ai plus exactement en chiffres, mais il y a eu une production...
Oui, il y en a plus de 200.
Quand on référencie... il y a quelques portails qui référencient sur le site du ministère le nombre de rapports qui vont porter sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Depuis la fin des années 90, il y a une quantité énorme qui est produite avec des producteurs très différents. La Cour des comptes, l'inspection générale, mais aussi des think tanks, des missions qui sont organisées, qui sont confiées à des parlementaires, à des experts, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces rapports construisent un univers autoréférentiel qui va fermer petit à petit le champ des possibles, c'est-à-dire qu'il va fermer petit à petit ce qu'on a le droit de dire sur l'université et sur la recherche pour être entendu. Alors il y a des mesures à chaque fois qui sont proposées. Alors évidemment, on peut imaginer que les raisons qui sont données sont en lien avec les mesures qu'on veut mettre en place pour la recherche et pour l'université. On ne sait pas qui de l'œuf et de la poule serait en premier. Mais quelques thèmes pour voir en fait comment ça a émergé. Alors évidemment, l'autonomie a émergé très rapidement comme thème. Il fallait l'autonomie pour les universités, mais l'autonomie prenait une dimension très particulière et un sens très particulier. Et ça allait avec l'idée qu'il fallait changer le gouvernement des universités. Et il fallait en finir avec ce qui est décrit comme des conseils d'administration pléthoriques où il est impossible de prendre aucune décision. Il fallait transformer les présidents d'université en vrais patrons avec un conseil d'administration réduit qui pourrait prendre des décisions et en contrepartie mettre en place une évaluation qui viendrait récompenser les meilleurs à tous les niveaux, y compris au niveau des universités. Et donc, en fait, vous voyez très bien que très rapidement, cette question de l'autonomie se construit comme l'imposition d'une concentration des pouvoirs à l'intérieur des établissements. ce qui est quelque chose qui est assez étonnant. Il y a une phrase qu'on avait trouvée d'un président d'université qui, dans les années 2000, avait expliqué qu'on avait connu l'autonomie des facultés, je crois que c'était comme ça qu'il avait formulé.
L'autonomie des facultés et des universitaires.
Et que maintenant, on allait connaître l'autonomie des universités. C'est-à-dire l'idée était qu'il fallait renverser les pouvoirs. Et donc, derrière la question de l'autonomie, se jouait une question de pouvoir. Pour revenir à votre question aussi, sur la question de j'ai pas oublié, sur la question de l'innovation, effectivement, va se constituer petit à petit, et en particulier, un rapport qui va jouer un rôle central, c'est le rapport de Aguillon et Cohen en 2004, parce que Aguillon a une théorie de la croissance économique qui permet de lier à la fois la question de l'enseignement supérieur, la réforme de l'enseignement supérieur, et à la fois la question de la recherche.
On parle de Philippe Aguillon, donc, qui est économiste, hein, c'est bien ça.
Philippe Aguillon, effectivement, qui est économiste, aujourd'hui professeur au Collège de France, mais à l'époque, qui était professeur à Harvard.
D'accord.
Et qui a été sollicité par Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non, ça ne doit pas être si c'était Valérie Pécresse, pour un rapport sur cette réforme-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, peut-être que les savants ne l'avaient pas vu venir derrière le terme de Bologne, du processus de Bologne, qui était l'économie de la connaissance, qui était en fait de faire en sorte que l'enseignement supérieur se mette au service des entreprises et que pour la formation et que la recherche soit tournée vers l'innovation, c'est-à-dire vers le développement technologique pour les entreprises.
C'est-à-dire que toute la partie recherche fondamentale, on va pas la supprimer, mais la laisser de côté, ou c'est peut-être plus la priorité.
C'est-à-dire de réformer la science pour en faire un facteur de croissance économique, de croissance des revenus, de croissance du PIB. Et Philippe Aguillon place justement l'innovation et les processus d'innovation comme étant au cœur du processus de croissance économique. Et donc, s'il faut transformer l'université, c'est parce qu'en fait, on ne crée pas assez de croissance économique avec la façon dont est organisée la science. Et donc, le projet réformateur, c'est un projet de réorientation de la pratique scientifique de telle sorte qu'elle soit capable de mieux produire de croissance économique.
Il y a vraiment un but utilitaire.
C'est écrit comme ça.
Et dans une optique libérale.
Ah bah ceci n'est pas en discussion, bien entendu.
Bien sûr.
Mais effectivement, ce qui peut nous sembler aujourd'hui, parce que la réforme a quand même bien avancé, ce qui peut nous sembler aujourd'hui une doctrine, nous, ce que nous avons observé, on a travaillé sur ces rapports, on en a dépouillé de façon très fine une petite centaine. Ce qui nous est apparu au travail sur ces rapports, c'est que elle s'est élaborée progressivement, par petites touches en quelque sorte. À vrai dire, il y a eu un moment tout à fait décisif, et effectivement, le rapport Aguillon dont parle Joël a été tout à fait crucial. Il y en a eu un premier en 2004, un second en 2010, et entre ces deux bornes-là, quelques autres tout à fait importants. Et on pourrait dire qu'au moment où la politique d'excellence a été mise en place, c'est-à-dire la politique de différenciation des laboratoires, des universités, etc., on peut dire qu'à ce moment-là, la doctrine est pratiquement établie. Mais ce que nous avons quand même observé, c'est que c'était une doctrine tout à fait franco-française. C'est-à-dire que ce sont des arguments nationaux qui sont toujours apportés, l'allusion à l'excellente initiative des Allemands ou aux universités dites américaines, bien sûr flotte un peu partout, mais c'est pas ça le cœur de l'affaire. Cependant, on a repéré deux moments très précis où les élaborations internationale et très précisément des bureaucraties européennes, qu'elles soient celles de l'Union européenne ou des associations privées de présidents d'universités, d'experts de toutes sortes qui gravitent autour d'elles, il y a deux moments où c'est intervenu très directement et très explicitement. Un, au moment où l'agence d'évaluation a été mise en place. Parce qu'il fallait évaluer, mais à vrai dire, les petits Français, ils ne savaient pas comment faire. Et il y a eu une importation directe des élaborations dans des bureaucraties européennes sur ce point précis. Donc c'est là où la démarche qualité, dont l'hôpital a été lui aussi la victime, le moment où la démarche qualité dans toutes ces... avec son jargon, avec ses procédures, avec son absurdité globale, est venu directement impacter, comme on dit, nos réformes. Et il y a un deuxième moment très important, c'est le moment, non pas tant du choix des universités d'excellence, mais de la pression pour que les candidats à ce concours obéissent aux intimations venant d'un jury dit international, et là, entièrement composé de bureaucrates parfois nord-américains, mais essentiellement européens, les intimations pour avoir une gouvernance resserrée. Et tous les projets qui sont passés ont dû avoir plusieurs versions parce que la gouvernance n'était jamais assez resserrée. Et à vrai dire, les candidats, ou plutôt les patrons de ces entreprises, étaient tout à fait ravis que le jury les oblige à réduire à néant les pouvoirs qui pouvaient encore subsister au sein de leur université. Mais voilà, là, à ces deux moments-là, on a vu l'Europe agir.
Gouvernance resserrée étant juste un terme pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'organes électifs qui pourraient venir limiter le pouvoir du patron.
Oui, tout à l'heure, on a abordé un petit peu de manière incidente, mais j'aimerais qu'on y revienne maintenant, la notion de l'autonomie. Alors effectivement, il y a deux autonomies là qui arrivent en contradiction, qui est d'abord l'autonomie des chercheurs, hein, l'autonomie de la science, et puis l'autonomie de l'université. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion, à mon avis capitale, majeure de cette autonomie du point de vue des chercheurs.
Juste un mot pour introduire ce sujet important. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, sur le thème de l'autonomie, la réforme qu'on peut décrire au singulier, la réforme a eu pour effet, et peut-être pour une partie pour objectif, de mettre un terme, de détruire, d'en finir avec l'organisation du pouvoir qu'avaient installé les trois moments, disons, démocratiques de la France de l'après-guerre. Un, la libération. C'est à la libération que, non pas que le CNU a été créé dans sa forme actuelle, et que le Comité national de la recherche scientifique a été mis en place. Ce sont deux ordonnances imaginées d'août 45. Le Conseil national des universités, oui. Donc chargé de l'évaluation des universitaires, et le Conseil national de la recherche scientifique chargé de l'évaluation des laboratoires attachés au CNRS et des chercheurs individuellement. Et ces deux institutions ont été créées dans un but explicite, c'est de protéger les personnels, chercheurs et enseignants-chercheurs, de l'autorité administrative. Puisqu'ils relevaient, non pas de leur directeur ou président, mais de ces commissions qui étaient aux deux tiers composées d'élus. Ça, il fallait démanteler ça. Ils sont en train de le faire. Ils n'ont pas tout à fait terminé, mais en gros, c'est déjà très très avancé. Deuxième chose, 68 n'a pas été suivi par un gouvernement particulièrement à gauche, mais Edgar Faure a instauré des universités autonomes, infiniment plus autonomes à cette époque qu'elles ne l'étaient aujourd'hui. Et les regroupements universitaires autoritaires ont contribué à démanteler cet acquis de 68. Troisièmement, tout simplement, le gouvernement de la gauche mis en place avec la présidence Mitterrand en 81. La loi Savary de 84 a organisé le pouvoir à l'intérieur des universités de façon extraordinairement démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait des conseils de diverses sortes, et le président finalement était élu par les membres de ces conseils. Il était élu environ par 170 personnes en moyenne. Voyez-vous, dans la loi Pécresse de 2007, le président, il est élu désormais par une douzaine de personnes, hein, que en gros il a nommées, mais enfin bon, qui sont quand même élus elles-mêmes. Bref, on assiste à la destruction soyons un peu emphatiques, des acquis démocratiques en ce qui concerne l'autonomie des universitaires et des universités.
Oui, là, vraiment, on est au cœur de la réforme. C'est ça, vraiment, le cœur de la réforme, ce que vous venez de citer, enfin, en grande partie.
C'est notre point de vue, en tout cas. Oui, c'est notre point de vue. Mais à vrai dire, jamais personne n'a dit comme qu'il fallait démanteler les acquis de la libération. Hein, ça se passe dans l'économie, hein, qu'il fallait liquider le CNR. En revanche, la critique de la loi Savary a été une antienne de toute la droite et de tout le centre pour arriver à la loi Pécresse. C'était ingouvernable. On aurait cru qu'on parlait de la 4e République, voyez-vous. Hein, pour tuer son chien, il faut dire qu'il a la rage, et c'est ce qu'ils ont fait en ce qui concerne la démocratie universitaire, oui.
Oui, c'est ce qu'on a vu dans d'autres domaines.
Alors, pourquoi il fallait rétablir de tels pouvoirs ? Parce que l'objectif de la réforme, c'est en fait de gouverner les savants. C'est-à-dire, il faut renforcer le pouvoir des chefs d'établissement, il faut... voilà, parce qu'en fait... L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un pouvoir sur l'activité scientifique pour pouvoir gouverner l'activité scientifique. C'est-à-dire que c'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire, sous couvert d'autonomie, en fait, on renforce des pouvoirs qui vont venir dire aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs sur quoi ils vont devoir travailler, comment ils vont devoir travailler. C'est quelque chose... par exemple, l'agence d'évaluation est toujours présenté, comment on peut être contre l'évaluation ? Il dit que voilà, on évalue, c'est important. Alors, les arguments souvent des responsables politiques, je me souviens de Thierry Coulon, avant qu'il prenne la direction de l'agence d'évaluation, nous disait, mais c'est de l'argent public, c'est normal, on doit rendre compte de comment on a dépensé cet argent-là, et donc, voilà, on ne peut pas être contre l'évaluation. Mais en réalité, derrière les questions d'évaluation, ce qu'il se joue, c'est l'imposition d'une définition légitime de la pratique scientifique. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et donc, en disant, en imposant les critères de la qualité scientifique, eh bien, on prescrit aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs comment ils doivent travailler, ce sur quoi ils doivent se concentrer. C'est un des premiers éléments très importants. On pourra y revenir aussi, mais ça, c'est une des jambes de la réforme, c'était l'agence d'évaluation, sur cette capacité, non seulement à dire qui sont les meilleurs et qui sont les moins bons, mais aussi donc à prescrire une définition légitime de la pratique scientifique. Et puis, la deuxième jambe de la réforme, c'est l'Agence nationale de la recherche, l'agence qui, ce que disait tout à l'heure Christian, a le monopole, le quasi-monopole de la distribution des crédits pour faire de la recherche, et qui a pour conséquence, c'est-à-dire que à mesure que l'Agence nationale de la recherche finançait de plus en plus de projets de recherche, les crédits qu'on appelait des crédits récurrents, c'est-à-dire la possibilité pour les laboratoires d'avoir des financements pérennes reproduits d'année en année, ont diminué. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au travers des programmes de recherche, d'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, le ministère ou différents réformateurs pilotent ce sur quoi il est légitime de travailler. Et vous avez sans doute entendu parler au moment du coronavirus le fait de ce chercheur Bruno Canard qui travaillait sur les coronavirus et à qui on avait retiré ses financements, qui n'avait pas de financement pérenne et qui n'arrivait pas à avoir de financement sur appel à projet pour faire ses recherches, parce qu'on considérait que ce n'était plus une recherche importante ça veut dire qu'il y a des personnes maintenant qui décident à votre place de ce sur quoi vous avez le droit de travailler.
Voilà, c'est un des aspects donc les plus aigus hein, de cette réforme dont on commence à voir les effets maintenant, et vous avez raison de souligner ce qui est arrivé à Bruno Canard. Il explique très bien, et en 2003, lors de l'épidémie de SARS-CoV-1, donc cette maladie du SRAS hein, qui était causée aussi par un coronavirus, il avait engagé des travaux très très avancés sur cette pathologie. Il faisait partie des meilleurs laboratoires. Alors là, pour le coup, c'était quelqu'un d'excellent hein, qui était très avancé, et puis il avait beaucoup travaillé, et on pourrait imaginer que s'il avait eu les financements auxquels il avait tout à fait légitimité à avoir, on aurait peut-être pu avoir une meilleure connaissance du coronavirus qui a provoqué le Covid en 2020. On va revenir à la fin de notre émission sur toutes ces agences que vous avez citées, mais j'aimerais juste qu'on termine cette deuxième partie par un mot sur le CNU. Parce que ça, à mon avis, c'est très très important.
Alors, le Collège national des universités couvre l'ensemble des disciplines enseignées à l'université. Il est organisé en sections disciplinaires et chacune de ces sections est composée en règle générale d'à peu près 25 collègues. Pour certaines, et notamment en matière de santé et de médecine, et ils sont plus nombreux. Mais la caractéristique principale de cette institution, c'est qu'elle est composée pour deux tiers de personnes élues, l'autre tiers étant nommé par les directions concernées du ministère. Et parmi les élus, il y a une répartition entre maîtres de conférences et professeurs, ce qui fait que l'ensemble de la communauté universitaire se trouve représentée dans cette affaire. Le CNU n'est pas un paradis. Chacune de ces sections peut avoir des défauts considérables, règlement de compte entre clics, débats sans fin entre écoles, etc., etc. Mais la caractéristique principale de cette affaire, c'est que, d'une part, toutes ces différences garanties par l'élection permettent d'assurer qu'il y aura débats contradictoires, et d'autre part, protège les enseignants, chercheurs, du pouvoir sans limite éventuel de la présidence des universités, en particulier en matière de promotion et en matière de changement de corps, etc. Alors, c'était très compliqué de démanteler le CNU. C'est un objectif très clair de la réforme depuis le début. Jamais il n'a été formulé de cette façon, si ce n'est par des think tanks libéraux qui, ne faisant pas partie du gouvernement, peuvent se permettre de dire à peu près ce qu'ils pensent. Mais il y a eu un affaiblissement progressif. Le dernier en date, et le plus important, je crois, a été justement mis en œuvre par le gouvernement Macron, et par Madame Vidal en l'occurrence, c'est la création, d'une part, le fait que le passage du corps des maîtres de conférences au corps de professeurs ne sera plus filtré par une autorisation de qualité, en quelque sorte, du CNU, mais sera décidé localement. Voilà. Alors, c'est une expérimentation, dit-on. Bien entendu, cette expérimentation, si on ne fait pas d'omelette avant, va s'installer comme une situation pérenne. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, une partie de ce qui était jadis des maîtres de conférences sera recrutée localement sous le vocable des professeurs juniors. Professeurs juniors qui auront un contrat à durée limitée, qui seront bien payés. On sort du cadre de la grille de la fonction publique et seront privilégiés dans la mesure où ils seront entourés d'un certain nombre de moyens de recherche qui vont leur permettre de recruter notamment des précaires. Bon, donc ces professeurs juniors ne passeront plus devant le CNU. Le CNU ne les qualifiera plus. Alors, conséquence attendue de ces réformes-là, c'est que d'une part, le pouvoir se déplace, le pouvoir de recrutement de fonctionnaires ou de quasi-fonctionnaires se déplace vers le président de l'université et que d'autre part, le cadre unitaire des statuts des enseignants-chercheurs commence à être démantelé. Un certain nombre de réformateurs un peu radicaux, en fait, souhaitent tout simplement que ce cadre disparaisse et que les enseignants-chercheurs soient tout simplement des employés des universités. On n'en est pas là, mais la réforme en fait prendre le chemin.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie.
vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant.
Jacques Brel, c'est trop facile.
Toujours Radio Libertaire, la voix sans d'unimètre de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états, aujourd'hui avec Joël Lellier et Christian Topalov, Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020 dans la collection L'Ordre des choses aux éditions Agon. Donc comment s'est construit au cours de ces 20 dernières années la réforme des universités, et dans la deuxième partie on est allé un petit peu plus au cœur de cette machinerie énorme de la réforme des universités. Et on s'est arrêté sur quelques points très, très particuliers, en particulier sur l'autonomie des universités et l'autonomie des enseignants-chercheurs. Alors, on a cité depuis le début de notre entretien, à plusieurs reprises, des organismes qu'on a un peu effleurés. J'aimerais que dans cette dernière partie, on revienne un petit peu plus en profondeur sur ces organismes. Et il y a deux organismes en particulier qui méritent qu'on s'y attarde. C'est alors je vais citer d'abord les acronymes ANR et ARS. Alors ANR, c'est Agence Nationale de la Recherche, c'est bien ça. Et ARS, c'est
l'Agence d'Évaluation de la Recherche. De l'enseignement supérieur et de la recherche.
D'accord.
Mais qui va être renommé ensuite en 2012 au Conseil pour l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur.
D'accord. HCERES. Alors, on va commencer par l'agence. Alors, c'est quoi son rôle? L'agence de l'ANR, on a bien vu que c'était le guichet où on vient réclamer des sous.
L'ANR distribue des ressources pour faire de la recherche sur la base de projets qui lui sont soumis et entre lesquels elle choisit. Alors, à vrai dire, c'est la première grande agence qui a été mise en place très tôt, dès 2005. Et ce qu'il faut admettre, c'est que pour une part, c'était une réclamation des chercheurs eux-mêmes. Pas de tous les chercheurs, loin de là. Mais dans le mouvement Sauvons la recherche, qui a mobilisé très largement les chercheurs du CNRS et au-delà, en 2004, à partir de janvier, jusqu'à des états généraux qui ont eu lieu à l'automne et qui ont remis leur rapport en novembre, une partie des chercheurs réclamait une telle agence. Peut-être je dis un mot plus de témoins que de chercheurs sur le sujet. J'ai participé à ces états généraux pour ce qui concerne Paris, et j'ai vu un profil de jeunes biologistes, hommes et femmes, qui se battaient à corps et à cri pour la création de cette agence. Et les chercheurs en sciences sociales qui étaient présents dans ce débat étaient farouchement contre, parce que nous ne voulions, un, pas dépendre des programmes qui nous seraient imposés, et deux, on voyait très très bien que ce type de crédit allait produire des précaires et des précaires et encore des précaires. Mais les jeunes biologistes en question, ils avaient deux idées en tête, je crois. D'abord, se débarrasser de leur patron, c'est-à-dire qu'ils puissent passer au-delà de leur directeur de laboratoire pour aller directement chercher des financements, et ensuite avoir des petites mains pour faire le boulot. Donc, l'Agence nationale de la recherche, le gouvernement qui l'a mis en place, qui était à l'époque, c'était à l'époque de la présidence Chirac et du gouvernement Fillon, pouvait se prévaloir de l'appui du milieu. Aujourd'hui, je crois que les chercheurs ont pas mal déchanté. D'abord, il y a tous les secteurs qui ne peuvent pas prétendre à déposer un projet, tout simplement parce que c'est pas les secteurs qui sont considérés comme importants par l'agence. Donc on a une recherche au pied nu qui se développe, ou plutôt qui a du mal à se développer, et tous les gens qui tentent de travailler sur les humanités classiques, pour ne prendre que cet exemple, ont bien des difficultés. Et puis même dans les disciplines qui sont potentiellement finançables par l'ANR, de quoi se plaignent les collègues? Eh bien, ils se plaignent de passer un temps fou à rédiger des projets dont ils savent qu'une majorité d'entre eux ne sera jamais pris. Donc, si vous voulez, alors ça peut aboutir à cette situation-là qui est ressentie très vivement depuis des années maintenant. Hein. Les crédits de l'ANR ont commencé à baisser assez fort sous la présidence de Hollande et n'ont jamais été rétablis à leur niveau initial depuis. Donc, ça peut aboutir à deux types de positions de la part des intéressés. Ou bien on dit, il faut arrêter avec cette recherche sur projet et revenir à des financements pérennes des laboratoires et à des créations de postes pérennes, ce qui est une possibilité, mais l'autre qu'on entend aussi assez souvent, c'est qu'il faut augmenter les crédits de l'ANR pour que les taux de succès, disons, des candidats augmentent.
Donc, juste une interruption, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de projets qui sont admis, recalés? Non, c'est pas très
on
bien.
On a une idée, tout ça oui. est publié, mais oui. je dois vous avouer à l'instant ne pas me souvenir
D'accord.
des derniers chiffres.
Oui. Okay.
Voilà. En tout cas, l'ANR elle-même fonctionne sur le mode vertical qu'on a décrit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que l'ANR crée des programmes, et au sein de ces programmes, un ensemble de dispositifs sont là pour rédiger des appels d'offres, donc orienter la recherche vers certains objets, et puis ensuite les évaluer, soit par des conseils scientifiques seulement, soit par des conseils scientifiques coiffés par des conseils dits stratégiques qui n'évaluent pas tant la qualité, enfin comment dirais-je, la qualité de la recherche promise, mais aussi sa pertinence par rapport à des objectifs supérieurs, qui sont notamment le progrès technologique.
Par exemple, je suis chercheur, j'ai un projet qui cadre à peu près avec ce qui est attendu de mon laboratoire. Je suis à peu près à la lettre les recommandations qui m'ont été faites pour établir ce projet, qui cadre en programme, et je suis recalé. Est-ce que j'ai un moyen de recours?
Vous pouvez recandidater.
On peut recandidater l'année suivante.
D'accord.
Okay. Et ceci à l'infini.
Oui, mais qu'est-ce que je fais jusqu'à l'année suivante?
Alors, l'année d'après, il est assez probable que l'équipe que j'ai mis en place, parce que ce sont de gros projets, hein, il faut avoir des collaborations avec d'autres laboratoires, avec d'autres universités, avec des universités étrangères, etc. L'équipe que j'ai mis en place a commencé à se déliter, et au bout de 2 ans, si ça marche, il n'y a plus les gens qui, au départ, voulaient le faire. Sans compter que ces projets, alors là, c'est l'indigène qui parle, celui qui... j'ai eu une ANR un jour, j'ai d'ailleurs pas compris pourquoi, mais ces projets-là, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que il faut en fait déjà dire ce qu'on va trouver. Et il faut expliquer ce qu'on va trouver et que ce qu'on va trouver va être utile à la société, voyez-vous. Donc on se développe une argumentaire complètement schizophrénique chez des chercheurs qui évidemment ne savent pas ce qu'ils vont... Ils vont chercher un certain nombre de choses, mais bon, la recherche n'est pas faite, quoi. Donc il faut raconter des histoires. On crée dans notre monde un monde double, un monde de village Potemkin qui se présente devant les organismes d'évaluation. La réalité est différente. Et ça crée vraiment des problèmes de toute nature dans notre monde, quoi. Notre culture bon, là, c'est vraiment l'indigène qui parle, pas le chercheur, mais notre culture est profondément bouleversée par ce type de pratique.
C'est donnez-moi les résultats et puis je vous amènerai les théories, quoi, qui
alors, de toute façon, l'ANR ne demande même pas de résultats. L'ANR n'évalue pratiquement pas les projets qu'elle a financés. Elle demande des délivrables. Alors bon, moi je peux voir ça du côté des sciences humaines et sociales, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est en physique ni en mathématiques, mais les délivrables en SHS, c'est des textes qui ne doivent pas dépasser plus de tant de mots, n'est-ce pas, qu'on va poster sur notre site. Qui va lire ça? Personne. Qui va évaluer ça? Personne. Je pense qu'il y a un gaspillage d'argent public absolument considérable, sans compter qu'en SHS, et là aussi c'est un point de vue étroit, mais enfin... C'est une discipline qui existe aussi. En SHS, on n'a pas besoin, dans la plupart des cas, de tout l'argent que donne un contrat ANR. On pourrait travailler avec beaucoup moins de fonds, voyez-vous. Hein, voilà.
Il ne faut peut-être pas trop le répéter trop fort, ça, parce qu'on risque de vous sucrer les crédits. Hein.
Je pense qu'il faut tout simplement diversifier les sources de crédit. Moi, c'est moi qui parle, hein, c'est pas un chercheur. Je pense qu'une recherche sur contrat est peut tout à fait être utile en complément d'une recherche qui se dispense de ce type de ressources. Mais simplement, les contrats doivent être distribués d'une toute autre façon et par de toute autre autorités que cette agence.
Alors, l'évaluation, comment ça fonctionne ? Alors, l'agence d'évaluation qui va devenir le Haut Conseil...
L'agence d'évaluation est arrivée un petit peu plus tard. Elle a été mise en place en 2007, si je ne me trompe pas, qui s'appelait donc à l'époque l'AERES. Elle va faire l'objet de beaucoup de critiques dans les premières années. Alors, parce que l'objectif de l'agence d'évaluation, elle a été constituée comme une agence de notation, comme l'agence des notations sur les marchés financiers, donc avec des notes A, B, C. Et l'objectif, bah, c'était de dire qui étaient les bons, et puis je pense qu'ils avaient l'idée, avec la doctrine de l'assurance qualité, de diffuser les bonnes pratiques. Et elle a distribué de cette façon-là toute une série de notes qui vont servir, et je pense que là, pour la peine, c'était pas quelque chose, nous semble-t-il, qui était prévu, mais qui va délimiter les périmètres d'excellence qui vont permettre ensuite de candidater au programme d'investissement d'avenir, les PIA, qui vont arriver quelques temps après. Mais donc, l'agence d'évaluation évaluait les laboratoires, les établissements, les formations, et rassemblait en elle-même toute une série d'institutions qui avant étaient plus éparses. Le CoNRS s'occupait de l'évaluation des laboratoires du CNRS. Il existait le Conseil national de l'évaluation au sein du ministère. Et en fait, le ministère formulait toute une série d'évaluations, mais qui étaient pas publiques, qui se faisaient dans les couloirs sombres du ministère. Et donc là, voilà, c'était une façon pour ces acteurs de se retrouver en pleine lumière, dans le processus, et du coup de pouvoir délivrer de cette façon-là toute une série de prescriptions. Elle va faire l'objet de critiques, en particulier la notation. Lorsque les socialistes vont rebasculer au pouvoir, les réformateurs vont avoir très peur. Ils vont avoir en particulier peur que la réforme soit mise... soit remise en cause par les socialistes. Et là, il y a tout un courant, toute une action politique qui va se mettre en place pour s'assurer que la réforme continue bien. Et donc l'AERS va être réformée à la marge en changeant son nom, mais rien va changer de particulier. Les notes A, B, C vont être abandonnées pour d'autres types de références. Mais en fait, ça va être là quelque chose de très... marketing. Mais ce sur quoi je voulais insister par rapport à ce que disait Christian, c'est que ces agences-là, elles n'existeraient pas sans nous. C'est-à-dire que j'ai plus exactement en tête les chiffres, mais le nombre d'experts pour l'AERS qui sont sollicités, c'est-à-dire qu'en fait on va solliciter des collègues pour venir constituer des comités de visite pour évaluer des laboratoires ou évaluer des universités ou des formations. Et en fait, nombre d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs se retrouvent investis dans ces institutions. Elles ne fonctionneraient pas sans nous. De la même façon, l'Agence nationale de la recherche constitue des comités de sélection, des comités de pilotage, alors ad hoc, mais qui sont constitués par des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Ce qui est de façon un peu paradoxale, c'est que ces institutions continuent à se présenter sous le couvert de l'évaluation par les pairs. De dire, mais en fait, ce qui est différent, c'est que ce sont des agences qui sont autonomes ce sont toujours des pairs, c'est-à-dire des scientifiques qui jugent et qui évaluent des scientifiques. Alors là, on a un point qui nous semble vraiment extrêmement important, ça fait l'objet d'un chapitre du livre, c'est qu'en fait, nous n'avons pas du tout à faire la même évaluation. L'évaluation qui est faite au CoNRS ou qui est faite au CNU, c'est une évaluation d'une commission qui se réunit pendant plusieurs années, qui réfléchissent ensemble sur leurs critères et qui sont élus, ce que disait Christian tout à l'heure, et qui vont constituer leurs critères sur un temps long. Alors que à l'ANR ou à l'AERS, on a des comités d'experts qui sont réunis à un moment donné et auxquels on donne des grilles d'évaluation. Et il y a un nouveau personnage qui devient central, c'est celui de l'organisateur des évaluations. Alors c'était jadis à l'AERS les délégués scientifiques qui justement aussi distribuaient la note. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les premières années, un comité de visite arrivait, évaluait votre laboratoire, ensuite il repartait, il produisait toute une série de documents, et puis le délégué scientifique, réuni avec les autres délégués scientifiques, distribuait ensuite des notes, des notations, et c'était ça qui était vraiment important, puisque l'idée de l'agence d'évaluation, c'est qu'elle a pour but de donner une information pour aider à la décision des chefs d'établissement dans l'attribution des crédits. C'est ça, c'est ça dont il est question. C'est pour ça que je vous dis c'est une agence de notation. L'idée, c'est il faut que, avec l'aide des résultats de l'agence d'évaluation, eh bien, les présidents d'université savent à qui il faut donner de l'argent et à qui il ne faut pas donner d'argent.
Oui, on va distribuer des crédits à ceux qui rentrent dans les clous, si je puis dire, et on ne va pas aider ceux qui, pour des tas de raisons, sont peut-être en difficulté à tel ou tel moment, sur tel ou tel objet de leur recherche ou de leurs travaux. Et donc, on va accentuer cette espèce de différenciation entre les pôles dits d'excellence et puis les autres. Hein. C'est un petit peu ça, non, le résultat ou le but. Je ne sais pas si c'était ça qui était voulu dès le départ.
Alors, dans le langage des réformateurs, on dirait qu'il faut éviter le saupoudrage et concentrer les ressources sur les laboratoires ou les acteurs ou les individus ou les chercheurs qui le méritent.
Voilà, c'est la prime au méritant, c'est la méritocratie.
En tout cas, ça se construit de cette façon-là. Oui. Évidemment, c'est très problématique dans le cadre d'une activité particulière. Ce n'est pas n'importe quelle activité productive, la science. Oui. Et ce que disait tout à l'heure Christian, un des problèmes, c'est que lorsqu'on fait de la science, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Oui. Et les injonctions de l'Agence nationale de la recherche, mais aussi de ce qu'on voit finalement dans l'AERES, l'agence d'évaluation, c'est qu'on nous demande en fait de coller aux objectifs de la réforme. Oui.
C'est une des perversions du système qu'on connaît bien dans le domaine de la santé, donc dans lequel je travaille, c'est que on finit par soigner des indicateurs. C'est-à-dire qu'on connaît les indicateurs et on va aller dans le sens d'un indicateur, les indicateurs qui vont nous permettre d'être évalués et donc de prouver notre qualité. Et donc on va se concentrer là-dessus au détriment du reste. Et finalement, il y a une sorte de perversion dans ce jeu-là. Si je sais d'avance ce qu'on attend de moi, et ben je vais poser mon effort sur ce qu'on attend pour avoir la note finale et avoir les crédits. Et puis finalement, on ne va plus que dans ce sens-là. C'est un peu la perversité de ce système.
Ce qui est, oui, tout à fait. C'est-à-dire que une des propriétés de ce système, c'est de contraindre les acteurs, en l'occurrence ici les candidats au financement de la recherche, à anticiper des attentes qui ne sont pas toujours très clairement explicite. Et l'ANR se prévaut depuis quelque temps d'avoir multiplié les appels à projets sur des programmes dits blancs. C'est-à-dire, vous choisissez le sujet, nous on évalue la qualité et on choisit. Mais choisir un sujet dans un contexte comme celui-là, dans un contexte de compétition généralisée où on sait que les taux de succès sont faibles, ça conduit à tenter d'anticiper sur ce qui est attendu de vous. Donc on a cette situation d'incertitude produit la conformité de façon absolument désolante, quoi. Et autre chose peut-être, en ce qui concerne l'évaluation, ça ne marche pas tout à fait comme les réformateurs le souhaiteraient. Puisque M. Coulon, qui est un de nos réformateurs en chef, qu'on soigne particulièrement dans ce livre, et qui vient de prendre, sous la présidence Macron, la présidence du Haut Comité à l'évaluation, s'est donné comme objectif de faire que les évaluations soient efficaces, c'est-à-dire que le résultat de l'évaluation d'une entité préside à la quantité de financement dont elle va pouvoir bénéficier. Dire ça en 2020, alors que l'agence a été créée a commencé à fonctionner en 2007, ça signifie que jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que la résistance du monde universitaire en particulier à ces injonctions-là, donner à ceux qu'on considère comme bons et donner moins à ceux qu'on considère comme mauvais, ces injonctions ne sont pas partout efficaces. Parfois, ça arrange bien un président d'université qui veut être sélectif en disant « Ah, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est l'AERS. » Donc ça, c'est bon. C'est bon pour la réforme. Mais quand même, en gros, il y a des procédures internes aux universités, a fortiori au sein du CNRS, qui se fichent comme de l'an 40, si je puis dire, de la notation, des notations, parce qu'elles sont au pluriel aujourd'hui, il n'y a plus de note unique, de l'AERS. Et ça, je pense qu'il faut constater ça comme un grain de sable dans les rouages de la réforme.
Une autre entité aussi importante hein, dans tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant à propos de cette réforme, c'est les présidents d'université qui sont constitués au sein de le CPU, hein, c'est ça ? C'est le comité des présidents d'université. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Parce que ça, c'est aussi très, très important.
C'est la conférence des présidents d'université qui rassemble effectivement les présidents d'université qui constituent, on pourrait dire, une instance qui va devenir l'organe privilégié du ministère dans le pilotage de la politique de l'enseignement supérieur. En fait, on observe au fil de la réforme plusieurs types d'institutions, d'instances qui vont être recrutées, en tout cas, ou fournir du personnel pour la réforme. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de saisir comment les individus se déplacent et de quelles institutions les gens vont aller pour aller vers d'autres institutions. Par exemple, lorsque l'agence dite autonome de l'évaluation, l'AERS, est créée en 2007, va se déverser dans cette agence-là la mission scientifique, technique et pédagogique du ministère, qui était l'organe de l'évaluation des formations au ministère, qui va se déverser, c'est-à-dire qui va constituer le personnel. Mais de façon encore plus étonnante, lorsque les agences sont créées, quand l'ANR est créé en 2005, c'est le directeur de la technologie au ministère. Le ministère, en fait, est constitué de trois directions très fondamentales. La direction de l'enseignement supérieur, en fait, qui est pilotée en grande partie par des anciens présidents de la conférence des présidents d'université. La direction de la technologie, dans laquelle on retrouve essentiellement des ingénieurs d'État, ou en tout cas des personnes qui font de la recherche, qui est proche de la recherche et développement, et puis la direction de la recherche, qui était plutôt le domaine du CNRS et de la recherche fondamentale. Et c'est la direction de la technologie qui va prendre la tête de l'Agence nationale de la recherche, et c'est la direction générale de l'enseignement supérieur qui va prendre la tête de l'agence d'évaluation. Et donc on voit comment ces agences qui sont toujours proposées comme des agences autonomes sont en fait installées par les plus hauts cadres ministériels au moment de leur création. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important à saisir. Et ce ne sont pas n'importe quel type de personnes. C'est-à-dire qu'au ministère, à la direction générale de l'enseignement supérieur, on va retrouver des présidents d'université qui sont bureaucratisés depuis longtemps dans ce type de position-là, qui ont pris des responsabilités centrales à la conférence des présidents d'université, et qui vont ensuite basculer au plus haut poste ministériel, à la direction générale de l'enseignement supérieur. Donc on voit, en fait, on pourrait dire qu'il y a ici un premier corps de réformateurs. C'est-à-dire que ce sont les notables de l'université, des gens qui... on parlait de l'hôpital tout à l'heure, donc l'hôpital a un corps de fonctionnaires administrateurs. Dans les universités, dans l'enseignement supérieur et la recherche, il n'y a pas encore, en tout cas il n'y a pas de corps d'administrateurs, mais les administrateurs se fabriquent en interne, à partir d'anciens chercheurs ou enseignants-chercheurs, qui vont très rapidement... Alors, c'est une question, mais autour de 40 ans, basculer dans des postes d'administration, et qui ne reviendront pas à leur paillasse, ou qui ne reviendront pas devant leurs amphithéâtres, qui vont se spécialiser dedans. Et donc, si vous voulez, le ministère garde évidemment la main de façon très importante sur ces agences, qui, par ailleurs, se revendiquent d'être absolument autonomes. Et c'est quelque chose qui est très très important pour ces agences, parce que leur légitimité se construit sur l'idée qu'ils sont autonomes des enjeux scientifiques, des enjeux locaux, et que c'est pour ça qu'ils auraient une meilleure évaluation, une meilleure façon de pouvoir évaluer des projets. Il y a un deuxième corps de réformateurs qui est très important. Je vous disais tout à l'heure, lorsque l'Agence nationale de la recherche est créée, c'est la direction de la technologie qui en prend la tête. Et on a dit dans la deuxième partie de l'émission l'importance qui était faite de installer comme objectif de la pratique scientifique le développement technologique et le développement et l'innovation, de participer à la croissance économique. Et là, c'est un deuxième corps de réformateurs qui va être mobilisé, en tout cas qui va être utilisé pour nourrir ces institutions-là. Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas des scientifiques à proprement parler, sont plutôt des gens qui viennent de l'univers de la recherche et développement. Et du coup, il y a des lieux qui nous ont beaucoup étonnés. Avec Christian, on a découvert, par exemple, l'existence de l'Académie des technologies, une académie assez récente qui a été créée dans les années 2000. Et l'Académie des technologies va devenir un lieu très important dans lequel on va retrouver nombre de ces réformateurs-là. Ils sont des gens qui se sont occupés de transferts technologiques, qui sont occupés de partenariats industriels, et qui vont prendre les directions de ces agences-là, et qui vont aussi de plus en plus prendre les directions des organismes de recherche. Que ce soit le CNRS, que ce soit l'INRAE, que ce soit l'INRIA, etc., etc.
C'est-à-dire que oui, on voit, excusez-moi, on voit dans le livre que ce sont des ingénieurs qui viennent du secteur de l'énergie nucléaire, du CEA par exemple, ou de recherche très très appliquée.
Alors oui, en fait, ce sont des gens qui ont toujours été là, en fait, dans le système du pouvoir de l'enseignement supérieur et de la recherche, enfin surtout de la recherche. Mais avec la réforme, ils vont être placés au cœur du pilotage de ces institutions-là et au cœur du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense, avec la démarche qui a été la nôtre, qui a été de saisir les transformations du pouvoir, de saisir les institutions à partir des individus qui peuplent ces institutions et qui gouvernent ces institutions-là. Alors, évidemment, on n'a pas enquêté sur les pratiques de ces grands patrons, mais il est évident que lorsqu'on a fait carrière dans la recherche et développement, lorsqu'on est placé à la tête d'un grand organisme de recherche, on imagine bien que c'est pas pour développer la recherche fondamentale et que c'est pas ça qui va être mis le plus en avant. Et on retrouve ces phénomènes-là dans différents organismes où on voit bien que la politique de la direction des organismes est vraiment d'orienter vers ce type de recherche-là. Alors après, il y a des attelages qui sont rigolos à observer. L'Agence nationale de la recherche, à un moment donné, séparait un organe qui était la présidence et la direction générale. La présidence, ils ont rapidement essayé de mobiliser des grands scientifiques. C'était une façon d'avoir du crédit scientifique, mais la direction générale, ceux qui vraiment tenaient mettaient les mains pour tenir les opérations, là, c'était vraiment des notables de l'administration de la recherche. Donc, vous voyez, il y a de cette façon-là toute une écologie, on pourrait dire, des réformateurs, où on va recruter dans certains endroits. Le CEA va devenir un lieu très important de recrutement. L'INRIA également, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. À un moment donné, des anciens présidents de l'INRIA vont se retrouver au même moment, trois anciens présidents de l'INRIA vont se retrouver l'un à la direction du CNRS, l'un à la direction de la recherche et l'innovation au ministère, et le troisième à la direction de l'ANR, je crois, si je ne me trompe pas. Je finis par m'y perdre un petit peu. Mais enfin, vous voyez, c'est-à-dire que le pouvoir qui est donné, la façon dont il se distribue et le type de personnes qu'on va retrouver dans ces postes de direction-là informe de façon, et là c'est quelque chose de très factuel, sur les transformations qu'on veut mettre en place avec ces nouvelles réformes.
On a fait un survol... Je dirais, même si on a pris notre temps pour le faire, assez rapide de la complexité de ce tableau de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. On arrive au terme de notre émission. On a bien vu donc toutes les implications et les conséquences de ces réformes sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et concrètement, grâce à votre travail, on a pu se rendre compte des rouages très complexes qui sont mis en branle pendant toutes ces années. Juste un mot pour conclure, hein, Christian, Joël, si vous avez encore une toute petite minute pour conclure sur
peut-être ce... Peut-être en un mot, un vœu,
oui.
C'est que d'autres chercheurs que nous, qui peuvent être sociologues, qui peuvent être historiens, qui peuvent être physiciens, par exemple, travaillent sur un thème que nous avons laissé de côté, c'est-à-dire les effets de toutes ces transformations institutionnelles et sociales sur les contenus de sciences. Parce que là, on présume que l'arrivée d'un ingénieur développement à la tête d'une direction d'administration centrale ou de l'ANR a des effets sur les produits scientifiques de l'ANR. Mais après tout, encore faut-il faire cette enquête. Et vraiment, il serait très très utile que dans différents secteurs, cette enquête soit entreprise et publiée.
Et ben voilà, l'appel est lancé, on espère qu'il sera suivi d'effet. Encore une fois, mille merci Joël Lallier et Christian Topalov pour votre ouvrage « Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020 » paru dans la collection L'Ordre des choses aux éditions Agone. Merci encore.
Merci à vous.